VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes dimanche dans le cadre d'un référendum pour dire oui ou non à une nouvelle constitution. L'opposition appelle au boycott. Dr Kwame Christophe, président de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains, nous situe sur l'enjeu du scrutin de dimanche.
Aujourd'hui, les enjeux seront premièrement le taux de participation. C'est vraiment le principal enjeu. Mais au-delà même du taux de participation, si cette constitution passe, qu'elle s'applique, je crois que le problème de 2000 peut se répéter. C'est-à-dire qu'en 2000, une partie de la population ivoirienne a trouvé que la constitution était faite pour ou contre elle. Voilà. Cette fois-ci, une grande partie dit « nous n'avons même pas été consultés, nous n'avons pas vu, donc nous n'avons pas voté ». Et la majorité de l'opposition dit « nous faisons un boycott et nous n'irons pas ».
Docteur Christophe Kwame de la société civile ivoirienne au Burkina Faso, dialogue de sourds entre les autorités et les agents du secteur de l'information publique en grève. Au piquet de grève, les forces de l'ordre ont répondu par la répression devant les locaux de la télévision nationale burkinabé. Une action qui alourdit le climat des négociations. Les grévistes comptent durcir le ton si des mesures ne sont pas prises. Bassolma Bazier, président de l'unité d'action syndicale au Burkina Faso.
Nous avons échangé avec le ministre de la fonction publique qui est rentré en contact avec son collègue de la communication parce que nous lui avons dit que nous sommes passés au piquet de grève et qui se déroulait conformément au respect des normes et même les conventions internationales ratifiées. Mais ce qui était en train d'être servi aux travailleurs, c'est inacceptable. De ce point de vue, nous allons rencontrer monsieur le ministre parce que nous lui avons dit au téléphone en entendant que ce qui se passe et la façon dont on gère le piquet de grève et le déploiement des forces de l'ordre devant une institution qui devait en principe être le premier écran du pays à l'international, ce n'est même pas du tout bien pour l'image du pays. S'il faut qu'on trimballe nos bagarres en dehors de nos frontières, nous allons le faire. Mais s'ils entendent raison garder, on va aussi régler ça comme il se doit dans le cadre du respect des textes.
Bassolma Bazier.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, Boko Haram a fait des dizaines de milliers de victimes depuis le début de son insurrection en 1989. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants qui ont perdu leurs parents dans ces attaques du groupe djihadiste. Dans l'état de Borno, il y a à peine un an, s'est ouvert un pensionnat pour aider une centaine d'orphelins. Récit Michel Joseph.
L'école dispose d'un grand complexe, une cour, un dortoir et une bibliothèque. Déjà, beaucoup d'enfants rêvent d'une autre vie. Pour Hassan Wakil, le rêve est permis.
Je veux devenir docteur, je pourrais aider les moins privilégiés et ceux qui sont dans le besoin.
Parfois, des enseignants doivent surmonter une barrière de langue. Malam Ousmane raconte.
Au tout début, j'avais un étudiant qui comprenait un peu le Haoussa. Alors, je lui disais d'expliquer aux autres enfants. Et progressivement, nous avons commencé à communiquer. Ce n'était pas facile, mais avec la détermination, je suis maintenant capable de leur parler et leur apprendre quelque chose.
Généralement, après la sieste, les enfants font la queue pour le déjeuner. Certains préfèrent manger seuls et d'autres en groupe. Mais la cuisinière Hajiya Fati est ravie puisqu'elle se régale de la nourriture qu'elle prépare.
Nous sommes quatre à nous occuper de leurs trois repas quotidiens. Depuis la création de l'école, ils ne se sont jamais plaints de manque de nourriture ou de saveur et ils se comportent très bien.
Ils ne se plaignent pas parce que les enfants grandissent et s'adaptent à leur environnement. Les enfants sont éduqués et tout leur est fourni. Ils veulent apprendre tout le temps. C'était notre mission.
Il reste cependant quelques défis à relever, dont le manque de personnel de soutien pour surveiller les enfants et beaucoup plus d'employés. Les responsables de l'école espèrent que les autorités vont certainement recruter plus de personnel dans un avenir proche.
Un dossier dans ce journal, la vague de retrait de pays africains de la Cour pénale internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Sidi Kaba, président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, fondateur de la CPI, ont appelé lundi les pays qui critiquent le fonctionnement de la Cour de la Haye à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Pour analyser cette situation, John Lydon, adjoint à Paris, Jemal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
La CPI, évidemment, l'a un tout petit peu cherché parce que le sentiment global que les États africains, parce qu'il s'agit d'eux principalement, vous savez, le vrai nom du juge, c'est courage. C'est un peu ce que nous a appris Casamayor. En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique. Et donc ce sentiment-là, évidemment, crée chez eux une espèce d'injustice et donc de rejet de cette justice. Et bien entendu, c'est un constat d'échec très fort pour la CPI elle-même.
Sidiki Kaba et Ban Ki-moon invitent tous ces pays-là à aller sur la table des négociations et à discuter avec la CPI.
Ils sont un peu dans leur rôle. Donc Sidiki Kaba est dans son rôle en le faisant, Ban Ki-moon aussi, et donc on ne peut pas attendre moins de leur part. La question de mon point de vue ne se pose pas comme ça. Le sentiment que les Africains ont déjà, quand il y avait Ocampo qui était procureur général, était qu'ils ne pouvaient enquêter que d'un seul côté. Et puis le sentiment, évidemment, est encore plus accru depuis que c'est Fatou Bensouda, parce que le sentiment est qu'on était frappé par une main de loin, on est aujourd'hui frappé par une main de près. Alors, c'est dramatique, en fait, pour la CPI elle-même. Et donc, le rôle de Ban Ki-moon et de Sidiki Kaba ne peut être que celui-là. Si j'avais un conseil à leur donner, et bien entendu que je n'en ai pas, le conseil serait plutôt, pardon messieurs, vous êtes dans votre rôle, mais écoutez un peu plus les Africains et prenez un peu en compte leur sentiment par rapport à cette justice-là. Et donc, il ne suffit pas de leur dire ne partez pas, donnez-leur des raisons plus sérieuses et plus objectives de rester. Sinon, ils ne resteront pas.
Alors, pourquoi, à votre avis, la CPI ne poursuit pas d'autres ressortissants d'autres pays hors continent ?
La réponse de la procureure générale ou du bureau de la procureure générale est toujours de dire nous ne disposons pas suffisamment d'éléments. La réalité, et c'est beaucoup plus important, c'est qu'en fait, ils vont là où c'est plus facile. Ils vont là où les enquêtes, d'ailleurs, paraît-il, mais c'est en tout cas le livre de quelqu'un qui était de la maison, M. Brinco, je crois, qui disait elle va chercher là où les éléments lui sont donnés par les gouvernements en place. Quand vous venez vous occuper de la situation de Jean-Pierre Bemba, vous réglez un problème interne à Kabila. Quand vous venez vous intéresser à la Côte d'Ivoire, un camp plutôt qu'à un autre, mais le sentiment général est celui-là. Et donc l'idée, c'est de dire oui, c'est la justice des vainqueurs, des plus forts et des plus faibles.
Jamal Taleb, avocat et consultant en relations internationales. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis aujourd'hui le réexamen d'une loi controversée encadrant le droit à manifester qui a conduit à l'emprisonnement de centaines de personnes et suscité des critiques internationales. La loi controversée régissant les manifestations a été adoptée en 2013, quelques mois après que M. Sissi, alors chef de l'armée, eut renversé son prédécesseur, démocratiquement élu, le président islamiste Mohamed Morsi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des rebelles syriens ont commencé aujourd'hui à Alep une offensive d'envergure pour briser le siège imposé par le régime au quartier qu'ils contrôlent en tirant une pluie de roquettes qui ont tué au moins 15 civils. La bataille va mettre fin à l'occupation des quartiers ouest par le régime et au siège imposé à un autre peuple dans Alep. Depuis juillet 2012, l'ancienne capitale économique de la Syrie est coupée en deux. Les quartiers est sont aux mains des insurgés et la majeure partie de l'ouest tenue par le régime du président Bachar al-Assad. Le groupe État islamique a massacré 232 personnes mercredi près de la ville de Mossoul en Irak et a enlevé des dizaines de milliers de civils pour s'en servir comme bouclier humain, a déclaré aujourd'hui la porte-parole du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ravina Shamdazani a précisé pendant une conférence de presse que 190 des 232 personnes assassinées étaient d'anciens membres des services de sécurité et les 40 autres des civils qui refusaient d'obéir aux ordres des djihadistes. La terre a continué à trembler dans le centre de l'Italie, où plus d'une centaine de répliques ont été enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi et où des centaines de sinistrés se sont résolus à aller dormir sur la côte adriatique après les deux puissants séismes de mercredi soir suivis par des centaines de répliques dans la seule nuit de jeudi à vendredi. L'Institut national de géophysique et vulcanologie, INGV, a enregistré plus d'une centaine de nouvelles répliques, dont 11 d'une magnitude comprise entre 3 et 3,5. Selon les experts, ces répliques pourraient durer des semaines, voire des mois. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon week-end et à bientôt. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.